passé de 6 minutes. Et oui, la Méridienne a un peu de retard. La Méridienne était coincée dans le tramway en retard pour cause de grève. Voilà, toutes nos excuses et bon courage aux manifestants. Cette émission devait être dédiée à Barbara, la grande dame de la chanson. Sébastien Bost, notre invité, qui a fait une thèse sur la question, est peut-être lui aussi coincé dans les transports. Alors, peut-être qu'il va arriver. En attendant, il y a avec moi Solène. Bonjour Solène.
Bonjour Mélissa.
Alors Solène, tu es une grande fan de Barbara aussi, je crois.
Oui, mais je pense que je connais beaucoup moins sa vie que l'invité qui va sûrement arriver, hein, beaucoup moins. Mais oui, j'aime beaucoup Barbara, ouais.
Voilà, donc c'est... Et pourquoi alors ? Qu'est-ce qui t'intéresse autant dans son travail ?
Ah bah ses textes et puis son interprétation. Après, je connais pas toutes ses chansons, mais pour en tout cas la plupart que je connais, c'est vraiment son interprétation, moi, qui me fout les poils. Alors je pense que c'est par rapport déjà à sa voix. Je pense que c'est quand on est ému par une chanson, c'est le texte, mais c'est aussi la voix et l'interprétation de l'auteur. Donc c'est ça qui m'émeut en fait à chaque fois que j'écoute Barbara. On sent qu'elle joue sa vie en fait à chaque fois qu'elle chante, et moi ça m'émeut.
Voilà, et donc Solène, pour nos auditeurs, voilà, tu es une voix connue de la radio puisque tu participes activement à Plan Séquence depuis plusieurs années.
Oui.
Et il se trouve que tu es aussi notre vice-présidente.
Oui.
Donc, voilà.
oui, c'est vrai.
C'est vrai. Alors, tu joues de la guitare aussi, est-ce que tu joues du Barbara ?
Ouais, ça m'arrive, ouais. Ouais, carrément. Les chansons les plus connues, mais je suis pas encore. Mais moi, j'aime beaucoup. Il y en a trois que j'aime beaucoup jouer à la guitare. Je sais pas si ça va vraiment intéresser les auditeurs, mais.
Mais bien sûr que si, allons.
C'est Dis, quand reviendras-tu ? Qui est, je pense, la plus connue chanson de Barbara. Et il y a Mon enfance, moi, que j'aime beaucoup comme chanson. Et la troisième, c'est Göttingen aussi, qui est assez connue. Mais c'est les trois chansons où les accords sont pas très compliqués, parce que sinon c'est vu que Barbara quand même elle joue plutôt du piano, et les accords de ses chansons sont en tout cas pour une néophyte comme moi assez compliqués à jouer, et du coup voilà, c'est les trois chansons que j'arrive à jouer un petit peu près correctement, mais je vais pas m'aventurer dans les autres chansons pour l'instant.
Bon, alors on va écouter Göttingen,
ouais,
de Barbara, en
espérant
que Sébastien Bost arrivera. À tout de suite, vous écoutez Radio Campus Tours, c'est toujours la Méridienne.
Découvrez. Nescafé.
Alors là, c'est complet aujourd'hui. Voilà, YouTube aussi est en grève et ça met une pub, désolé.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. Pas de quai et pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, à Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence. À Göttingen, bien sûr, nous avons la Seine. Et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles. À Göttingen, à Göttingen, nous avons nos matins blêmes et l'âme grise de Verlaine. Eux, c'est la mélancolie même. À Göttingen, à Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine. Car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. La, 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 la. Mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen.
Barbara, grande dame de la chanson sur Radio Campus Tours, c'était le choix de Solène Berger, notre vice-présidente et animatrice émérite de Plan Séquence, avec moi en studio de nouveaux invités, de fans de Barbara. Ah, en tout cas, j'en suis sûre, le deuxième, on va peut-être le découvrir. Alors, Alain Werner, bonjour.
Bonjour, ma chère Mélissa.
Alain Werner, voilà, tu as animé pendant de nombreuses années On n'est pas sérieux quand on a 17 ans.
Pendant 12 ans.
12 ans. Voilà, et tu es maintenant chroniqueur dans Sortez.
J'ai arrêté parce que je ne voulais pas devenir sérieux à 17 ans.
Voilà. Mais cependant, on a toujours le plaisir de t'entendre dans Sortez, puisque tu es chroniqueur dans Sortez.
Oui, je suis un chroniqueur.
Voilà, et donc si tu es là, c'est parce qu'on a pu entendre souvent du Barbara quand même dans ton émission On n'est pas sérieux quand on a 17 ans.
Oui. Voilà. Parce qu'il reste quelque chose de l'adolescence. Hein. Barbara, on peut comprendre l'amour qu'on a pour Barbara que quand on est adolescent et qu'on se cherche une identité, qu'on se cherche une histoire d'amour qui échappe à tous. Barbara, c'était ma Barbara à moi. Et j'ai pas fréquenté ou j'ai pas flirté avec des gens aimant Barbara parce que chacun a sa façon de l'aimer à la folie. Et quand ça vous tombe dessus à 15 ans ou 16 ans, évidemment, c'est le moment où les hormones travaillent, etc., etc. Et Barbara, c'était quelque chose, parce que c'était une flamme vivante, c'était une femme comme on voudrait voir toutes les femmes. Hélas, elles n'étaient pas toutes comme Barbara. Elles ne chantent pas toutes sur un beau piano noir, aux touches bien blanches et des chansons enfin, complètement différente de tout ce qui pouvait se produire à l'époque. Elle appartenait à aucune chapelle. Elle était Barbara, la grande prêtresse d'une religion qui n'appartenait qu'à elle, quoi, et qu'on ressentait quand on était ado fasciné. Il y avait de la fascination. Moi qui aime beaucoup la chanson, qui l'ai beaucoup étudiée, qui aimait d'autres chanteurs après, évidemment, et des chanteurs qui chantaient la poésie, qui chantaient la rage de se battre, etc., la chanson combative, la chanson des poètes. Barbara, c'était à part. D'abord, c'était ses textes à elle, donc c'était ce qui venait de son fort intérieur, et puis c'était quelque chose qui nous mettait en marge de tout. Alors, quand on est adolescent, quand on est un petit peu pris par le feu de l'adolescence, quand on s'y laisse griller, on se met en marge de tout avec des gens qui sont en marge de tout. Il y en avait très peu. Il y avait qu'elle. Elle n'a pas fait d'école. Elle a fait école sur personne qui a chanté comme elle après ou qui a voulu l'imiter. Ça aurait été stupide, mais ressembler à Barbara. Les autres chanteurs, même quand je pense à une femme comme Juliette Gréco, que j'ai connue personnellement, elle, voilà. Juliette Gréco, c'est une femme qui levait le poing, qui chantait les choses révolutionnaires. Tandis que chez Barbara, l'histoire n'existait pas, la révolution n'existait pas, c'était l'amour avec un grand A, et c'était bon. Ou on était Pierre, ou on n'était rien du tout, quoi.
Ça fait penser à Robin Gary, ce que tu dis, Alain, sur l'idée qu'après, voilà, il y a eu dans ta vie le soleil Barbara, le soleil noir Barbara, l'éclair Barbara, et que après, personne n'a été à la hauteur. Ça a pensé à la promesse de l'aube. On vous fait une promesse que la vie ne tient pas, en fait. Ça part tellement fort et tellement bien qu'en fait, après, rien ne peut égaler.
Ouais. J'ai du mal aujourd'hui à l'écouter, à la réécouter. C'est parce que ça fait mal de vieillir, parce qu'on n'est plus adolescent, parce qu'on n'a plus le même feu en soi, parce que voilà, puis parce qu'elle a disparu aussi. Des fois, je me pose la question en me réveillant le matin, mais elle est morte ou elle est encore vivante? Non, elle est toujours vivante dans les adolescents qu'on a été, elle est toujours vivante. C'est justement ce qui fait mal, parce qu'elle nous ramène à notre adolescence, c'est ça, quoi. Alors, sur l'histoire de l'amour, ce qui est drôle, c'est que ne lui ai jamais connu, enfin je ne la fréquentais pas personnellement, hein. Mais, et puis je n'ai pas eu le bonheur de la programmer sur les scènes de spectacle où j'ai travaillé, mais je l'ai jamais, j'ai jamais entendu dire qu'elle avait un homme. C'était peut-être l'idée de l'homme qui l'habitait, c'était ça plutôt. Alors on lui a prêté des histoires d'amour, il y a même eu une période où on l'avait marié à Maurice Béjart. Alors pour moi c'était formidable parce que Béjart c'était le plus beau des hommes, danseur, machin et tout. Puis Barbara la plus belle des femmes, c'était étonnant. Mais j'y crois pas, des choses comme ça, c'est des histoires pour les journaux qui vous en inventent de toutes les couleurs.
Non, ah, c'est journaliste.
Je la voyais pas couchée dans un lit comme tout le monde, Barbara. C'était pas ça. Pour moi, c'était la pureté. Voilà, ça fait partie aussi ces gens-là, ces femmes-là, quand on les rencontre dans un métier artistique, on leur prête toutes sortes de qualités qu'ils n'ont pas forcément. Hein, voilà, on focalise sur eux et on fait des projections. Elle était la pureté même. Alors, elle était la pureté de l'amour, elle était la pureté de tout ça, quoi. Les parties de Jean Borlaire, je ne les imaginais pas. Non, c'est les seules parties de Jean Borlaire qu'elle pouvait avoir, c'est avec ses deux mains sur le clavier. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Clément ?
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas présenté Clément Joly, qui est là à notre micro, donc c'est une voix que vous avez déjà entendue.
Et qui est aussi, aussi jolie que son beau prénom, voilà. Son beau nom.
Voilà. Ça, je ne sais pas, mais ce que je peux dire à propos de Barbara, moi, c'est qu'elle me rappelle, en fait, je dirais que je l'associe au noir et blanc, en fait. Quand je vois, par exemple, des lives, ou même, je pense, aux touches du piano, bah, je vois du noir et blanc, en fait, je l'associe à ça. Mmh. Et même l'aigle noir, enfin, je veux dire, je l'associe, voilà, à ces deux couleurs, et je connais pas bien, je connais pas autant que vous, Barbara, mais c'est vrai que quand on l'écoute aujourd'hui, ça fait toujours frissonner, et on a envie de l'écouter comme ça pendant des heures, et d'écouter ses mots, ce qu'elle a à nous dire, et tous les sujets qu'elle peut aborder sont vraiment...
C'est le grand sujet, amour et l'existence, quoi, l'être. Parce qu'autrement, pas de sujet social, pas de chansons combatives, elle appartenait à aucun mouvement, elle avait le mouvement des idées, son mouvement à elle, son frissonnement à elle. Voilà, et... Elle a bien fait de s'appeler Barbara parce qu'on n'aurait pas vu ça sous le nom qu'elle avait de Monique Cerf, quoi. C'est Monique, ça fait un peu plus paysan, excusez-moi, chère Monique qui nous écoutait sur Radio Campus aujourd'hui, mais il y a de jolies Monique, mais pas de Monique qui chante, bizarre, hein. Si, Monique Morelli. Monique Morelli, en voilà une. Alors, elle qui était combative, elle qui était le contraire, hein, du point de vue de la voix. Et Monique Morelli, et puis avec sa voix éraillée, et avec son point levé qui chantait. Voilà. Mais Barbara, c'était la pureté au creux de soi quand on est adolescent, quand on a 15-16 ans. Moi, j'avais 15-16 ans quand tous ces succès de démarrage se sont faits, les années 60. Alors, il n'y avait pas les CD, il y avait... les disques, les 45 tours en vinyle, et puis les 33 tours qu'on payait si cher, parce que moi, c'était tout mon argent de poche qui passait là-dedans. Et j'ai pas conservé ma collection, mais il n'y avait pas non plus de vraie collection. Mais toutes les chansons qu'elle pouvait faire m'ont toujours touché, L'Aigle Noir et les autres, quoi. C'est À mourir pour mourir...
Eh bien, je propose justement qu'on écoute L'Aigle Noir. Comme ça, on va pouvoir entendre Barbara.
Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, ses ailes déployées. Lentement, je le vis tournoyer, se glissant dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes de couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé. Il m'était revenu. Petit oiseau, où t'y emmène-moi? Retournons au pays d'autrefois, comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles, comme avant, sur un nuage blanc, comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, allumer le soleil, être faiseur de pluie, et faire des merveilles. L'aigle noir, dans un bruissement d'ailes, brise son vol, pour gagner. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Au matin, je me suis éveillée, l'oiseau m'avait laissée seule avec mon chagrin. Un beau jour, où était-ce une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, quand soudain il surgit de nulle part, il surgit l'aigle noir. Un beau jour, une nuit, un beau jour, où était-ce une nuit, un beau jour, une nuit,
et voilà, c'était Barbara l'Aigle Noir sur Radio Campus Tour. Vous écoutez La Méridienne et Alain me faisait très justement remarquer que c'est une version bien curieuse avec ce piano électrique en fond. Voilà, on dirait que c'est un clavier, un Concorde, en fait un Concorde Elka, une espèce de clavier chromatique qu'on trouvait, je pense, dans les années 70. Mais en tout cas, est-ce que tu as l'impression que ça abîme la chanson, Alain?
Oui, c'est pas ce que j'ai entendu, moi, le souvenir que j'en ai à la naissance de la chanson. Et puis, on ne voit pas Barbara travailler sur un instrument pareil, alors c'est curieux, quoi. Ouais. Ça me fait curieux. Ça me fait curieux. On peut tout faire aujourd'hui quand on veut ressortir Barbara, la remettre au goût du jour. On peut conserver sa voix seulement, puis l'enrober de toutes sortes d'instruments, et pourquoi pas de la fanfare des Gazards. Hein, c'est...
Et alors, il se trouve, Clément Joly, voilà, donc tu es étudiant en histoire, si je ne m'abuse.
Ça.
Et on a pu t'entendre dans l'émission du département d'histoire et d'archéologie,
oui.
Un tour d'histoire. Voilà. Et je crois que tu as pu avoir Sébastien Bost en cours.
Oui, on l'a vu mardi, en fait, il y avait une journée d'études en musicologie à Tours. Et en fait, il est venu, alors c'est Monsieur François-Olivier Toiti, notre, le doyen de notre université, et qui en fait avait invité justement Sébastien Bost, qui lui voilà, est spécialiste de Barbara. Alors il nous a appris plein de choses hein, sur Barbara, beaucoup de choses sur sa vie, des anecdotes, notamment il nous a raconté alors, une anecdote qui est assez amusante, c'est Barbara qui voulait travailler en fait, qui voulait faire un nouvel album, en quelque sorte, et elle avait contacté Jean-Louis Aubert de téléphone, et en fait Jean-Louis Aubert est arrivé chez elle, sauf qu'il connaissait pas du tout Barbara, et tout de suite il lui a dit pour lui faire plaisir, en gros, j'ai beaucoup aimé votre chanson Le Corbeau Noir. Et ça, c'est ce que nous avait raconté justement Sébastien Bost. Et donc elle, ça lui a tout de suite plu parce qu'en fait elle était un peu voilà toujours en gros attachée à ses chansons et elle en avait un petit peu marre et elle voulait voilà un petit peu de en quelque sorte des idées nouvelles et donc ça lui a quand même plu quoi, ça l'a fait beaucoup rire hein, on peut imaginer.
On imagine mal des assemblages d'ailleurs entre Barbara et des hommes quels qu'ils soient, parce que même l'union passagère qu'elle a vécue artistiquement avec c'est Gérard Depardieu qui l'a chanté je crois.
Oui.
J'arrivais pas à m'y faire parce que lui le gros plouc franchement Barbara à côté, c'est de la dentelle, quoi. Puis lui, c'est bon, voilà, c'est de la toile de jute.
Hein, il chante Barbara là justement, oui, elle a sorti un album. Oui. Il y a pas longtemps.
Non, mais j'arrive pas parce que bon, c'est dans des grands corps comme ça qu'on trouve peut-être des jolis petits sentiments, mais je sais pas, c'était plutôt un truc commercial, moi je pense. Hein, en tout cas, je peux pas m'imaginer qu'une femme comme Barbara ait pu avoir une quelconque attraction. sentimentale, amoureuse pour une armoire à glace comme ça, c'est non, avec tout le respect que je peux avoir pour lui comme comédien quoi, sauf que je le trouve un peu lourd et Barbara c'était tout sauf la lourdeur.
Mais il a été chanteur hein, justement, enfin il a fait un album justement, plusieurs albums justement où il fait des chansons assez. Il montre un petit peu sa sensibilité en quelque sorte, mais c'est vrai que voilà, il est attaché ouais, à cette image, je pense,
ouais.
Qui va peut-être pas forcément.
Il a plus l'image d'un ours que de.
Ouais. Mais les contraires s'attirent parfois, Alain. Les opposés s'attirent.
Ah, c'est vrai, oui.
On ne sait pas.
Oui, c'est vrai, les opposés s'attirent, mais bon.
Et alors, qui te semblerait digne de chanter Barbara? Qui, à ton avis, pourrait chanter?
Eh bien, j'ai vu et j'ai reçu à Saint-Pierre-des-Corps, dans la salle du Centre culturel, quelqu'un dont j'ai oublié le nom aujourd'hui, mais qui était un garçon qui devait venir de la région du Mans ou je ne sais trop où par là, et qui chantait Barbara merveilleusement. Si j'avais pensé avant de venir, j'aurais regardé, j'aurais retrouvé son nom. Mais il la chantait très bien. Il la chantait très bien. Il avait une, comment dire... Il y avait des résonances en lui de... Et puis il avait cette sensibilité féminine, parce que Barbara c'est avant tout la sensibilité féminine quoi. C'est difficile, c'est pas une chanson d'homme du tout, c'est pour ça chanter par sortant de la bouche de Pardieu, je vois pas trop où est-ce qu'elle est allée chercher ça, ou pour elle où ça l'amusait beaucoup, je sais pas. Je ne sais pas quelle est l'histoire de la rencontre. Mais j'imagine mal les histoires d'amour de Barbara, d'ailleurs, s'il y en a eu, peut-être. Mais celle qu'on lui a inventée ou qu'on a cherché à raconter pour elle à sa place, j'imagine mal. J'imagine mal. Même Maurice Béjart, je vois pas Barbara, Maurice Béjart se lever le matin, prendre le café et tremper le croissant dedans. Quoi, c'est... Hein. Parce que c'est d'abord, c'est enfin Barbara, c'était c'est, c'était l'idée de la femme. C'était même pas la femme en elle-même. Il se trouve qu'elle avait, elle était pas belle, mais elle avait une silhouette, elle avait un charme, elle dégageait quelque chose. Hein. Bon, mais c'est vrai qu'elle n'était pas grosse, lourdingue, mais plutôt maigre et tout le contraire. Son visage, on peut pas dire que c'était pas ni un corps, ni le visage d'une nymphe qui se présente au concours de beauté, quoi, de Miss France, etc., quoi. Mais elle imposait sa silhouette, elle imposait sa présence, et quand elle nous l'imposait, on avait l'image de la beauté qu'on imaginait, nous, parce que c'était pas non plus chez Miss France qu'on allait chercher nos émois amoureux.
Ben justement, je propose qu'on...
Si, toi Clément, les émois amoureux, c'est Miss France?
Non, pas du tout.
Voilà. Bon, et ben, pour couper court à cet interrogatoire somme toute gênant, je propose d'écouter Barbara qui chante justement une histoire de lettres d'amour. Et c'est Barbara qui chante une chanson de Serge Gainsbourg en relisant ta lettre.
En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe est toi. Ça fait deux. C'est toi que je veux, ne prends qu'un aime par-dessus tout. Ne me dis point, il en manque un, que tu t'en fous. Je t'en supplie, point sur le i, fais-moi confiance. Je suis l'esclave, sans affront grave, des apparences. C'est ridicule, c'est majuscule, c'était si bien. Tout ça m'affecte, ça c'est correct, au plus haut point. Si tu renonces, comme ça se prononce, à m'écouter, avec la vie, comme ça s'écrit, j'en finirai. Pour me garder, ne prends qu'un dé, tant de rancune. T'as pas de cœur, y'a pas d'erreur, là y'en a une. J'en mourirai, n'est pas français, ne comprends-tu pas? Ça sera ta faute, ça sera ta faute, là y en a pas. Moi je te signale que Gardénal ne prend qu'un nœud, mais n'en prend qu'un cachet, au moins n'en prend pas deux. Ça te calmera et tu verras pour ton ballon, le cafard, les pleurs, les peines de cœur. Oh, dans l'eau.
Barbara qui chante en relisant ta lettre une chanson de Serge Gainsbourg. Alors, Alain, je suppose que tu connaissais bien sûr cette chanson, peut-être Clément aussi d'ailleurs.
Oui, mais sans savoir si c'était lui ou elle qui l'avait écrite. Et c'était de toute façon une chanson étrange, parce que bon, Gainsbourg n'a jamais fait non plus, du point de vue de sa représentation, dans la dentelle, quoi. C'est, voilà, Gainsbourg, c'est un peu le bourru aussi, hein, voilà. Mais justement, comme tu disais tout à l'heure, les contraires s'attirent, quoi. Les opposés s'attirent, c'est... Il peut y avoir de ça, mais pas pour vivre une vie entière, mais pour un moment artistique, parce que le côtoiement de l'un et de l'autre peut être amusant à entendre. C'est vrai, Barbara chantée par des hommes, c'est difficile, sauf ce garçon dont j'ai toujours pas retrouvé le nom, qui la chantait merveilleusement, parce que en plus il la chantait pas en cherchant à l'imiter, parce qu'il y a rien de plus épouvantable. Personne n'a jamais chanté comme Barbara. On a pu imiter Barbara, heureusement. D'ailleurs, j'ai pas connu d'imitatrice femme qui se prête à ce genre de truc. On s'approche pas de Barbara parce qu'on se brûle. C'est...
Et puis, comment dire, là on voit aussi dans cette interprétation de « En relisant ta lettre » qu'elle elle joue aussi, elle est dans le théâtre, ça fait penser peut-être à Anne Sylvestre, un peu, qui elle aussi est très dans le chanter-parler.
Oui.
C'est difficile ça, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui arrivent à avoir cette justesse.
Anne Sylvestre est peut-être l'exemple le plus proche qui aurait pu chanter, Barbara peut-être, c'est sûr.
Et c'est vrai que là, donc Solène nous proposait tout à l'heure d'écouter Göttingen, on a écouté L'Aigle Noir aussi, il y a quelque chose, de, en tout cas dans ces chansons-là, de très émouvant, de très touchant, peut-être d'un peu tragique dans ces chansons, mais elle a aussi chanté quelques chansons, comment dire, plus légères, enfin, des choses moins...
Ah oui, elle a chanté de la Gaudriole, elle a même pris des chansons des années 20, il y a eu un disque fait comme ça avec des... Avec des chansons drôles, quoi, voilà, comme on s'attendait pas à ce qu'elles sortent de la bouche de Barbara.
Et bien justement, je propose d'en écouter une de ces chansons drôles. Et on va écouter Les Amis de Monsieur.
Voilà.
Bien qu'il possède une femme charmante, l'ami Durand est un coureur, v'là type Kirluc sa servante, et qu'il la reluque en amateur. Il murmure, dites donc ma fille, entre nous êtes fort gentille, et votre personne crénom d'un chien, au naturel doit être très bien. Ah, monsieur, répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne, car fit-elle d'un air étourdi, tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Durand de plus en plus s'emballe, la petite bonne, il fait la cour, et pour décrocher la timbre, il lui jure toute une vie d'amour. Voyons, ne fais pas la dégoûter, au contraire, tu devrais être flatté. Dans ta chambre, je monterai sans bruit, laisse donc ta porte ouverte cette nuit. Ah, monsieur, répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne. Paraît que je possède un bon lit, tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Au rendez-vous, elle fut fidèle, mais comme elle hésitait un peu, durant s'excitant de plus belle, avait la tête et le cœur en feu. Voyant qu'elle retirait sa chemise en devenant rouge comme une cerise, il s'écria tout folichon, oh, je n'ai jamais vu de si beau. Monsieur, répond la petite bonne, est-ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne. Je comprends que vous soyez ébahis, tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Comme Durand a de la galette et qu'il n'est pas vu d'un garçon, elle fut pas longtemps la coquette et céda sans faire de façon. Ici des points pour la censure, puis il s'écria, je t'assure, je trouve exquise, c'est merveilleux. Et que ma femme, tu t'y prends bien mieux. Oh, monsieur, répond la petite bonne, est-ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne, que je m'y prends mieux que madame. Pardi, tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit.
Barbara qui chante une chanson grivoise, comme le disait Alain Werner, juste avant cette pause musicale, Les Amis de Monsieur dans la Méridienne sur Radio Campus Tours. Et bah, Clément, tu es toujours là dans le studio.
Et oui.
Alors, qu'est-ce que tu en penses de cette voix étonnante? Parce que je t'ai vu rire et sourire pendant, ouais, pendant la pause musicale. Qu'est-ce que ça t'évoque?
Je connaissais pas du tout cette chanson et c'est vrai que... elle joue vraiment quoi, comme si elle, ouais, si elle jouait dans une pièce de théâtre. Alors, du coup, ça m'étonne beaucoup moins maintenant de me dire voilà qu'elle a pu voilà travailler avec Gérard Depardieu. Voilà, on sent qu'elle est portée aussi vers ça et que c'est aussi une autre facette qu'on connaît peut-être moins aussi de parmi les chansons qu'elle a pu faire. Et justement, ce qu'on pourrait dire justement à Alain par rapport à ça, c'est que elle a peut-être été justement beaucoup identifié à ce style un peu voilà un peu mélancolique, un peu triste parfois, et justement elle a peut-être voulu à des moments de sa carrière aussi changer un peu de peut-être j'imagine d'ambiance musicale et changer un peu d'univers musical et d'aller vers des choses plus peut-être plus grivoises comme celle-ci. Et
ouais, pour elle, pour s'amuser, oui, pour voilà, s'amuser d'elle-même.
Parce que je pense que c'était quelqu'un qui avait un caractère aussi peut-être... Du coup quand on avait vu Sébastien qui parlait de Barbara, il nous disait voilà, qu'elle avait un côté très très rock auquel on ne pense pas forcément, et elle a souvent justement été identifiée à une espèce de chanson française un peu justement qui s'opposerait un peu à tout ce qui est chansons françaises, culture populaire, au yéyé par exemple à la même époque. Et elle en avait un peu marre apparemment de cette, justement de cette scission entre ces deux univers. Et justement il y a un live où elle est avec Johnny Hallyday et ils sont tous les deux à côté, justement ils se parlent à un moment et puis ils jouent sur cette espèce de distinction qu'ils ont parce qu'ils font pas la même musique quoi. Et elle, elle lui dit, bah, enfin, lui, il lui dit, qu'est-ce que tu pourrais me composer comme musique? Et justement, lui, on voit que, que tous les deux, ils se jouent de ça et du fait qu'ils font pas forcément la musique, qu'ils s'adressent pas parfois au même public, quoi. Mmh. Et donc, je pense que c'est aussi plusieurs facettes, quoi, Barbara. On a tendance, voilà, à mettre des étiquettes. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup en France. Et je pense qu'avec Barbara, c'est probant, quoi.
Mais elle s'est toujours affichée avec des lourdeaux, et d'ailleurs, moi, j'ai jamais imaginé Barbara dans les bras d'un homme. C'est comme ça. Je l'imaginais pas non plus forcément dans les bras d'une femme, mais c'était l'amour avec un grand A, c'était l'abstraction de tout. C'était
une icône intouchable. Et d'ailleurs, pour les amoureux de Barbara ou ceux qui veulent en savoir plus, il me semble qu'il y a un très bon film de Mathieu Amalric qui est sorti en 2017, qui s'appelle Barbara. Voilà, et on y voit Jeanne Balibar. Alors, est-ce que les... Alain, Clément, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle est juste dans son interprétation de Barbara?
Je ne suis pas allé voir.
Ouh, bah alors Alain?
Non, parce que Barbara, pour moi, c'est l'émeraude, c'est la perle pure. Et aujourd'hui, ce qui pourrait ressembler, ça ne m'intéresse pas. Personne ne pourra jamais ressembler à Barbara. Il n'y a jamais eu personne et personne ne s'y est frotté. Alors que, évidemment, on peut imiter... ou être des petites Sheila ou des petites Sylvie Vartan ou des petites qui remuent derrière et qui ont des plumes dedans, mais Barbara, non, c'est pas ça. C'est Barbara, c'est un bijou unique, c'est la perle rare.
Et Clément, est-ce que tu as vu ce film?
Non, j'ai pas vu ce film non plus, c'est pas bien.
Bon, bah c'est pas grave.
Je vais le regarder dès ce soir, promis.
Oui, bien sûr. Je n'en doute pas un seul instant. En tout cas, merci beaucoup à vous, messieurs, d'être venus dans cette émission autour de Barbara. Et merci Solène aussi qui était là. Et eh bien, nous espérons que nous pourrons recevoir un autre jour Sébastien Boss qui fait une thèse sur le sujet et qui a sûrement mille choses à nous dire sur Barbara. Je propose que l'on se quitte en écoutant une chronique de nos estimés bibliothécaires de la bibliothèque municipale. Et eh bien, ils vont nous parler d'un DVD qui s'appelle, attention pour mon excellent accent anglais, Soundbreaking. Grand merci à tous et je vous souhaite une agréable journée à l'écoute de nos délicieux programmes.
Mais à toi de même.
Bonjour, merci. Alors c'est la bibliothèque municipale de Tours sur Radio Campus Tours et moi mon truc c'est la BD. Donc bah, tout à l'heure je vous parlerai de BD.
Aujourd'hui, sur Radio Campus Tours, on fait escale à la bibliothèque de Tours.
Excusez-moi, je dis que des bêtises. Non,
mais bien les yeux de Mélissa que je dis que des bêtises.
Des BD, des mangas, en vois-tu, en voilà, à la bibliothèque municipale de Tours, sur Radio Campus Tours. .com.
.com.
Je voudrais parler de Popeye.
Eh bien, Mélissa, nous voulions te parler de Soundbreaking. Soundbreaking, c'est un coffret de DVD. Au départ, c'est paru sur, c'était diffusé sur Arte, et donc ça a été édité en coffret DVD que vous pouvez retrouver à la Centrale et aux Fontaines. Et Soundbreaking, le sous-titre, c'est la grande aventure de la musique enregistrée. Donc ça, c'est déjà une bonne entrée en matière, je trouve. C'est issu d'une série documentaire américaine qui s'appelait Soundbreaking: Stories from the Cutting Edge of Recorded Music. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au départ, il y avait 8 émissions sur la version américaine et qui ont été condensées en 6 dans la version française. Et avant de laisser la parole un petit peu à Guillaume, ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'ils ont vraiment retourné des épisodes pour la version française, parce que dans la version américaine, forcément, il y avait des grands noms de la musique anglo-saxonne, mais là, on a vraiment aussi la fine fleur des icos et producteurs et fous de son français dans cette version. Voilà, donc je peux un petit peu laisser la parole à Guillaume à ce stade-là.
Non, enfin, c'est assez rigolo de constater qu'il y a des remontages et des versions un petit peu différentes en fonction des différents pays récepteurs. Quoi. C'est par exemple l'Auberge du Cheval Blanc qui était une opérette qui a eu beaucoup de succès en France et qui a connu plusieurs versions. Elle avait été réduite de 3 à 2 actes. Il y avait des numéros qui ont été modifiés, ajoutés. Enfin, donc là,
on est un petit peu là-dedans. Hein.
Moi, j'avais, quoique le propos soit intéressant, j'avais été un petit peu déçu parce que il y a un épisode en particulier sur l'émergence des musiques électroniques et qui en fait propose un éclairage vraiment restreint sur les débuts de l'électronique et qui il parle pas beaucoup du classique alors que la racine elle est vraiment là même dans la facture d'instruments, le thérémine, les ondes Martenot
et puis tout le travail de la musique concrète, la musique électroacoustique
qui est pas forcément glam quand tu la présentes comme ça mais qui est quand même
il est évoqué mais c'est vrai qu'on est plutôt sur les musiques dites actuelles. Alors, c'est ce terme assez atroce qui couvre à la fois le rock, la chanson, le R&B, parfois même le jazz. Bon, déjà, moi, je vais essayer de partir des 6 DVD, parce que vous allez voir que ça, c'est assez parlant, rien que par les titres qui sont assez poétiques. Le premier, c'est La Fée Électricité. La Fée Électricité, en fait, c'est un petit peu la genèse de la musique enregistrée. Par définition, la musique, il y en a toujours eu dans l'histoire de l'humanité. A priori, les hommes ont toujours fait de la musique, mais jusque-là, elle n'était jamais enregistrée. Elle pouvait être écrite, elle pouvait être transmise, bien entendu, transmise oralement, mais là, pour la première fois dans l'histoire, on pouvait la fixer. Ce qui est en fait une révolution complètement dingue.
Elle a été enregistrable avant d'être lisible.
D'ailleurs. Alors vas-y, raconte-nous ça.
Non, bah, c'est pareil. Il y avait des pionniers qui étaient fascinés par le fait de pouvoir... enregistrer le son d'une façon graphique, on va dire. Et donc c'est Scott de Martinville, qui était un Français, qui a été un des tout premiers, si ce n'est le premier, à pouvoir, avec un stylet, graver un sillon sonore dans du noir de fumée. Mais évidemment, ce qu'il a enregistré n'était pas lisible. Et c'est seulement beaucoup plus tard, avec des technologies numériques qui ont été utilisées de façon assez astucieuse, qu'on a pu entendre ce qu'il y avait sur cet enregistrement. Alors, il est très dégradé, il est très imparfait, mais quelque part, quand tu sais que, voilà, avec des moyens purement, j'ai envie de dire, de camp scout, en quelque sorte, tu pouvais enregistrer et fixer la réalité sensuelle d'un son, c'est quelque chose qui est absolument fascinant.
C'est assez magique. En fait, ça prouve aussi que c'est une vieille fascination de pouvoir enregistrer la musique.
Et d'ailleurs, enregistrer tout court, la voix humaine.
Oui, c'est ça. Oui, pardon. Déjà, d'enregistrer du son, c'était complètement fascinant quand c'est arrivé, on va dire pour simplifier, au 19e siècle. Fin du 19e siècle, on commence à avoir les premiers enregistrements sonores. Mais la vraie explosion, c'est le 20e siècle, avec un effet crescendo qui allait de pair avec les techniques de restitution sur vinyle. Donc la musique peut pénétrer dans tous les foyers, y compris des musiques qui ont été enregistrées à l'autre bout de la planète. Et ça va encore exploser avec les Trente Glorieuses, en fait, avec la naissance d'un marché adolescent, avec l'essence du loisir aussi. Donc ça retrace un petit peu tout ça, les 6 épisodes, mais la Fée Électricité, elle va parler de manière alors assez simple. Hein, c'est pas du tout des DVD faits pour des ingénieurs du son ou des mélomanes psychopathes. Hein, c'est vraiment accessible à tout le monde.
C'est bien fait, c'est accessible, c'est clair.
Et avec des témoignages, c'est ça qui est vraiment très chouette. C'est-à-dire que dans les témoignages, on a vraiment la génie qui est quand même assez incroyable. Hein, ça va de George Martin à Rick Rubin, à Catherine Ringer, à Christina Aguilera, à Chuck D, à Jean-Michel Jarre, qui est hyper intéressant. J'ai revu mon jugement sur Jean-Michel Jarre à ce propos.
Donc Steven Wilson aussi.
Il y en a vraiment énormément. Et donc le premier, voilà, en quoi l'électricité a pu changer la manière de jouer de la musique. La deuxième, c'est la magie du studio. Dans un studio, en fait, ce qui se passe, c'est assez magique, c'est qu'en fait, c'est la rencontre entre des musiciens créateurs, mais aussi un ingénieur du son qui pendant longtemps a été quand même un véritable sorcier qui savait où mettre les micros, les branchements, et puis le producteur, cette espèce d'incarnation qui peut parfois faire peur. En fait, le producteur, c'est pas seulement celui qui ramène l'argent. Là, en l'occurrence, c'est surtout celui qui va ramener les idées, qui va faire une sorte d'arrangement musical.
La patte artistique.
C'est ça.
C'est la magie du studio. C'est des musiciens qui se rencontrent, parfois des bibliothécaires.
La blague est tombée à plat, c'est pas grave. Moi, elle me fait rire.
Je suis coutumier du fait. C'est ma patte artistique à moi.
Donc, le troisième épisode, c'est donc le producteur. Qu'est-ce que c'est que son rôle dans le processus créatif et la réalisation musicale? Et je vous jure que c'est passionnant. C'est vraiment, on arrive sur des albums clés de l'histoire de la musique, avec forcément des moments humains de rencontres, de clash, des moments de doute, et à quel point le producteur peut, réussir à faire sortir le meilleur des musiciens, même des choses qu'ils n'avaient pas prévues à la base. Pour les Beatles, les cas sont très fréquents.
Pour Nirvana aussi.
Exactement, je l'avais sur le bout de la langue. Et pour pas mal de musiques qui peuvent être aussi paraître plus légères, le producteur il a encore un rôle hyper important. Le quatrième épisode s'appelle « Trouver sa voix ». Parce que forcément, de tous les instruments qu'on peut enregistrer, la voix humaine, en fait, c'est celui qui est le plus délicat, le plus subtil, et c'est une sorte de quête du Graal. Parce qu'en plus, pour un musicien, la voix, c'est quelque chose de très personnel. Donc, on n'a pas forcément envie de la livrer. On a envie parfois de la trafiquer. Et donc, derrière, on va avoir aussi toutes les évolutions actuelles du vocodeur, de l'autotune, qui peuvent parfois, pour les puristes...
Tu ne peux pas t'empêcher de parler de PNL. C'est plus fort que toi.
Voilà, on peut en faire tout et n'importe quoi, mais comme souvent en art, hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont parfaitement inécoutables pour moi et qui sont très moches. Et puis au contraire, il y a des choses avec de l'autotune et du vocodeur qui sont juste très créatives, très belles.
On a d'ailleurs, je fais une petite aparté sur une de nos acquisitions récentes en 33 tours, qui est un disque qui s'appelle Floatus du groupe Lamb Chop, qui à la base est un musicien de musique country et là qui a dévié vers l'électro et qui utilise justement le vocodeur d'une façon vraiment inhabituelle et inattendue. Mmh. Et c'est un disque qui est très, très lyrique, je dirais.
D'accord.
Et c'est un bon exemple justement de l'auto-tuning qui est utilisé non pas comme une fin en soi ou comme une espèce de vernis
pour masquer la misère,
plus ou moins attendu ou espéré, enfin, ou pour plutôt rentrer dans une case radiophonique de programmateur, là, je sais pas quoi, mais voilà, vraiment quelque chose qui est utilisé avec délicatesse, avec subtilité, dans une intention artistique manifeste.
Ah ouais,
et ça porte, enfin, en tout cas moi j'ai été sensible.
J'avais un autre exemple avec le dernier album de Vampire Weekend, qui est un groupe pop que j'aime beaucoup, assez créatif. Et voilà, il y a des moments avec un gros vocodeur qui peut paraître dégoulinant, et sauf que ça marche vraiment bien. C'est assez bluffant. Le cinquième épisode, en fait, ça parle des différents supports. Il s'appelle du 78 tours au fichier MP3. En quoi est-ce que l'évolution des supports d'écoute a entraîné des changements d'utilisation pour nous, en fait, pour le public? En quoi ça change la donne? Comment est-ce qu'on reçoit les morceaux? Et puis, derrière, il y a des controverses assez vives, hein, sur les puristes du vinyle, ceux qui détestent le MP3, ceux qui n'en ont rien à faire de la cassette, etc. On a des querelles de chapelle assez... C'est féroce.
Dans la cassette, elle devrait mettre tout le monde d'accord. C'est pourri.
Oui. Et puis le dernier, parce que le temps passe et qu'il faut conclure, s'appelle Génération Sample. Le sampling, c'est en fait a complètement révolutionné. Ça, je l'ai vraiment appris avec ce documentaire. On le sait pour le rap et les musiques électro, voilà, on se doute bien. Hein. Mais en fait, finalement, toutes les musiques actuelles ont été touchées par l'art du sampling, avec des musiciens qui ont été complètement fascinés par l'arrivée de ce nouvel instrument. C'est-à-dire que finalement, le fait de pouvoir enregistrer d'autres sources sonores, comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans sa musique, c'est tout sauf de la triche. Et ça, c'est hyper intéressant. Il y a notamment Akhenaton d'IAM qui en parle très très bien, à quel point l'artiste, de toute manière, par définition, s'inspire toujours du monde qui l'entoure. Il n'est jamais isolé dans une bulle. Et l'art du sampling, c'est exactement ça qui se passe.
Donc l'artiste et le législateur, ils auront peut-être des points de vue légèrement différents sur cette question.
Oui, on est d'accord.
Mais c'est vrai que le procédé créatif de réemploi et de collage, il a un équivalent en art, hein, depuis longtemps. Et effectivement, quand on voit des collages, que ça soit Ernst, que ça soit Prévert, c'est évidemment des collections originales et qui ont leur sens propre.
Ouais.
Donc je ne sais plus s'ils le disent dans le documentaire. Je crois que le premier sample, ou un des tout premiers samples, c'était Lalo Schifrin sur la BO de Enter the Dragon. Et il avait utilisé un des cris de Bruce Lee, c'est donc le premier long métrage de Bruce Lee, et dans lequel il joue. Et il avait utilisé sa voix quand il crie, quand il porte des coups, pour l'intégrer dans sa musique.
D'accord. Il y a une autre anecdote qui est assez drôle, justement, c'est Akhenaton qui explique quand ils ont fait avec IAM l'Empire du côté obscur, qui parle de Star Wars. Eux, leur kiff, ça aurait été de pouvoir sampler la marche impériale, hein, donc de John Williams. Et John Williams se refuse en disant non, c'est ma musique. Et ce qui est quand même assez drôle, c'est que la marche impériale est quasiment calquée sur la marche funèbre de Chopin, en inversant les accords, en fait. Donc voilà, il y a une espèce d'ironie, genre touchez pas ma musique, mais moi par contre, je peux le faire. Voilà, donc ça s'appelle Soundbreaking, on pourrait en parler des heures avec Guillaume, il faut vraiment nous arrêter un moment. Soundbreaking, vous pouvez le trouver à la Centrale et aux Fontaines, un coffret 6 DVD, vraiment accessible à tous, et vous n'allez plus jamais réécouter la musique pareille.
Voilà, grand merci à nos bibliothécaires de la bibliothèque municipale de Tours, pardon, je l'ai bouché, qui nous présentaient ce coffret DVD. Merci à nouveau à nos chroniqueurs venus parler avec moi de Barbara, Alain Werner, Solène Berger et Clément Joly. À tous une excellente journée à l'écoute de Radio Campus Tours. Mmh.
Thank you.